Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 novembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne. On va parler aujourd'hui de cette action Un livre, un bébé, ou un bébé, un livre plutôt, menée à la maternité du centre hospitalier du Haut-Anjou pour inciter les parents à lire aux bébés dès leur plus jeune âge et favoriser ainsi leur langage. Et puis je ne suis pas toute seule en studio puisqu'il y a déjà Patrick Pitts, donc le trésorier de l'association Solidarité et Fraternité pour les enfants en Haïti, qui organise une projection au cinéma Le Palace de Château-Gontier autour du film Freda. Ce sera le sujet de notre longue interview aujourd'hui. Et puis on va également retrouver notre chronique sport comme tous les vendredis où on va parler, et c'est une première sur l'antenne, de badminton. Et puis on va poursuivre et conclure aussi notre feuilleton autour du Lab Lab, le premier Fab Lab dédié aux personnes en situation de handicap. Ça, ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, on fait un petit point autour de l'actualité en Mayenne. L'accueil périscolaire des enfants perturbé aujourd'hui. Trois syndicats appellent à une grève nationale des animateurs et des agents municipaux qui travaillent dans le milieu de l'éducation. Ce matin, la garderie, ce midi, la cantine et même l'accueil de ce soir ne seront pas forcément assurés selon les établissements. Les parents sont invités à consulter les messages transmis par le coordinateur périscolaire ou bien le site internet des écoles, tout simplement. Et puis, un rassemblement a lieu en ce moment même devant la mairie de la ville de Laval. Le trafic des trains a repris dans la matinée à Laval. Il avait été interrompu ce matin alors qu'une personne avait été heurtée par un train TER un peu avant 8h entre Laval et Vitré à hauteur de Saint-Pierre-la-Cour. Un homme de 28 ans est décédé. Le trafic des trains a repris depuis progressivement. Un motard héliporté a changé après une collision avec une voiture hier soir. L'accident a eu lieu vers 19h sur la Nationale 162, près du rond-point en direction de Louverné. Le pilote de la moto a été transporté donc en hélicoptère en urgence absolue au CHU d'Angers. Et le conducteur de la voiture, lui, a été transporté à l'hôpital de Laval. En Mayenne, les éleveurs de porcs appelés à la prudence par la coordination rurale 53. Avec la crise du secteur du porc en France, le syndicat conseille aux éleveurs de se protéger en mettant en place des mesures de sauvegarde ou des dépôts de bilan. Cette crise pourra encore durer entre 10 et 20 mois, selon le syndicat. Une nouvelle réunion à Château-Gontier pour parler éducation, commerce et santé. Des réunions publiques sont organisées jusqu'à mi-décembre chaque samedi matin dans un quartier de la ville. Et demain, ce sera autour du secteur sud de la ville. Rendez-vous à 10h à la salle de la Motte Vauvert. Les élus municipaux seront présents pour échanger sur les projets en cours. Et puis un petit mot de football avec Laval qui défend sa place en Coupe de France ce week-end, en Coupe de France féminine. Les joueuses du Stade Lavallois affrontent ce week-end Lorient, une équipe de R1, en 6e tour de la compétition. C'est la dernière équipe à évoluer en niveau district, encore en lice pour ce premier tour fédéral. Coup d'envoi du match à 14h30 dimanche. Et puis je vous en parlais en tout début de cette émission, cette action Un bébé, un livre qui est proposée chaque année en novembre à la maternité du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier. C'était aussi le cas à Laval hier après-midi. Les orthophonistes se sont présentés aux mamans donc, qui venaient juste d'accoucher, certaines même, et au papa qui était aussi présent, pour qu'elles puissent choisir un livre offert par l'association. Et c'était l'occasion aussi donc de rappeler l'importance de lire des livres aux enfants dès leur plus jeune âge, et aussi l'importance au niveau de la prévention du langage pour la suite et de leur appréhension de la communication avec les autres. On les écoute.
Donc je suis Julie Bréchet, orthophoniste à Château-Gontier, et on intervient pour Un bébé, un livre dans le cadre de l'association Parole PDL. C'est de sensibiliser les familles au développement de la communication dans le sens large, dans le développement du langage oral et aussi du langage écrit. Et l'intérêt du livre, c'est que c'est un outil facile à manipuler pour les bébés, pour les parents, et qui permet d'échanger, d'interagir avec l'enfant, de partager du plaisir. Et ils sont très intéressés par tout ça parce qu'il y a les intonations des parents, il y a les expressions du visage, et ça donne une appétence ensuite pour le langage, découvrir des nouveaux mots de vocabulaire, découvrir des nouveaux bruits, des mots rigolos, et ça leur donne aussi envie d'apprendre à lire. Ils entendent tous les sons de la langue, ils vont être hyper vigilants aux changements d'intonation, ce qu'on appelle nous la prosodie, ils vont être intéressés par tous les changements de mimique de notre visage, et ils vont être intéressés justement pour regarder le visage de l'autre, interagir avec l'autre, écouter les histoires, regarder les images, et tout ça, ça favorise le développement de la communication et des compétences sociales des bébés. L'intérêt du livre aussi, c'est que ce soit un outil finalement avec lequel on peut en retirer du plaisir et avec lequel on peut finalement travailler plein de choses sans que ce soit un matériel coûteux, parce que on trouve de très bons livres d'occasion. Il y a les bibliothèques et les médiathèques qui sont de formidables outils, et c'est finalement des outils top pour la communication, le développement du langage, qu'on trouve facilement.
Alors moi, je suis Laura, donc nouvelle maman d'un petit Augustin qui est arrivé hier, le 17 novembre. J'ai déjà une petite fille de 6 ans qui est en CP, donc là, apprentissage de la lecture, écriture à fond. Avec notre aînée, dès toute petite, on a adoré lui raconter des histoires et elle absorbait tout ce qu'on racontait, donc ça, c'est génial. Donc on a vraiment pris l'habitude, dès toute petite, à partir de peut-être un an, de lui raconter des histoires tous les soirs. Et maintenant, c'est vraiment le rituel à ne pas louper dans la journée, c'est l'histoire du soir avant le dodo. Et depuis, ça dure, et maintenant, elle commence à lire quelques pages elle-même. Et c'est vrai que c'est top pour le développement du langage. Elle est arrivée à l'école à 2 ans et demi, elle parlait super bien déjà, donc je pense que ça a aidé, quoi. Bah, déjà, on est beaucoup sur le langage, en fait, déjà lui parler, même s'il est tout petit et qu'il dort beaucoup. Bah, on voit bien que quand même, dès qu'on parle, bah, surtout la voix de la maman, du papa, des proches, il reconnaît et puis il tourne un peu les yeux pour suivre un peu les bruits. Donc rien que ça, je trouve que c'est déjà le premier apprentissage au niveau du langage.
Et le petit Augustin, né seulement mercredi, hein, a déjà une bibliothèque chez lui. Et oui, grâce à sa grande sœur, entre autres, et au cadeau, hein, de la famille. Et puis en tout cas, cette action « Un bébé, un livre », c'est aussi l'occasion de rassurer les parents, notamment sur l'arrivée du langage, ou en tout cas le début du langage chez les plus petits. On va rester, alors pas forcément dans le même domaine, mais en tout cas, on va s'intéresser aussi aux enfants en l'occurrence d'Haïti. Ce sera juste après The Strokes avec leur titre « Tap Out ».
Yeah.
c'était The Strokes avec Tap Out dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on va parler désormais de cette association Solidarité et Fraternité pour les enfants en Haïti, association qui propose une projection autour du film Freda. Ce sera dimanche à Château-Gontier au cinéma Le Palace. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Patrick Pitts, le trésorier de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour justement parler de votre association et puis aussi de cet événement dimanche. Déjà peut-être, oui, commencer par ça un petit peu, l'association Solidarité et Fraternité pour les enfants en Haïti. Bon, on comprend déjà que vous agissez dans le pays sur place, mais comment elle s'est créée il y a 38 ans maintenant ?
Voilà, c'est ça. Donc au commencement, Monsieur Luzu donc, avait créé l'association en Haïti dans des buts humanitaires, et ces buts humanitaires étaient de venir en aide aux enfants qui étaient en situation, je dirais, de nourriture très 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 difficile. Donc il avait créé une crèche, on accueillait les enfants en séjour humanitaire, on les remettait, je dirais, on les nourrissait, on les remettait en bonne santé, on les reconfiait à leur famille, puis suivant, je dirais, quelques mois qu'ils avaient passé dans notre crèche. Ensuite, on s'est interrogé sur la capacité ou ce qu'il conviendrait de faire et ce qu'il conviendrait de mener en Haïti pour pouvoir justement aider les enfants des quartiers, du quartier de Tabar où nous sommes basés depuis 1980.
Donc c'est à Port-au-Prince ?
C'est à Port-au-Prince, c'est un quartier qui est à côté de l'aéroport de Toussaint Louverture, l'aéroport de Port-au-Prince. Donc ce que l'on s'est dit, c'est que ce qu'il conviendrait, c'est certainement d'ouvrir une école et de leur permettre de venir à l'école, et une école qui coûterait quasiment rien aux parents.
Est-ce que la scolarité sur place, c'est un problème en tout cas pour...
Beaucoup, si vous voulez, beaucoup d'enfants sont peu scolarisés. C'est 60 ou 80% des enfants qui ne sont pas scolarisés. L'école publique est très surchargée, peu compétente, enfin bon, je mets des guillemets bien évidemment. Et nous, on voulait quand même offrir...
Manque de moyens, j'imagine, en tout cas, oui.
Comment ?
Manque de moyens, en tout cas,
voilà,
j'imagine.
Manque de moyens, et tout à fait, tout simplement, manque de moyens. Et on ahanait plutôt les informations plutôt que, je dirais, une pédagogie comme nous, on l'entend, sur nos enfants, une pédagogie basée sur l'éveil, basée sur la pratique, sur la dynamique, l'échange et ce genre de choses. Donc nous, on a voulu mettre ça en place. On avait commencé donc par mettre en place une école maternelle et une école primaire.
Donc et ça s'est fait à partir de
ça
quand ?
Ça s'est fait à partir des années 2000. Donc jusqu'en 2010, on a construit donc, cette école primaire qui est devenue donc, efficiente et qui opérait. Et on s'est aperçu que 2 ou 3 ans plus tard, qu'il fallait quand même qu'on aille un petit peu plus loin pour accompagner les enfants. Le primaire, c'était bien, mais il fallait aller jusqu'aux années collège. Et là, il y avait donc 3 autres années, donc 3 autres classes à ouvrir, ce que l'on a fait en 2016-2017. Donc on a ouvert un collège, donc maintenant on couvre le spectre de l'école maternelle grande section jusqu'à la 9e année fondamentale, qui est l'équivalent de la 4e en France, et ce qui leur donne un diplôme à la sortie de notre école, ce qui était très important pour nous. Voilà.
Et sachant qu'ensuite, justement, j'imagine que ça leur ouvre aussi d'autres horizons, d'autres pistes, même si vous les suivez peut-être pas tous derrière. Mais...
Ils peuvent continuer à, bien sûr, leur scolarité et leur cursus. Nous, on ne les prend pas en charge, mais ils ont parfois des parrains et on est des facilitateurs entre les parrains et eux. Typiquement, nous avons aujourd'hui 2 jeunes filles qui vont terminer leurs études d'infirmière et qui vont être diplômées au mois de décembre de cette année, ce qui est relativement très, très, très bien pour nous et nous en sommes très fiers.
Donc c'est des jeunes filles en tout cas que vous avez suivies tout au long de leur scolarité, même petites.
Tout à fait. Elles ont démarré donc on va dire en maternelle. Elles ont bien sûr été jusqu'en primaire et jusqu'au... pas le collège. Le collège, elles l'ont fait ailleurs, mais c'est nous, avec des parents, qui les avons donc aidées à poursuivre cette scolarité. Et les études d'infirmière ont continué et elles vont obtenir leur diplôme cette année.
D'accord, très bien. Donc très, très bientôt. J'ai cru voir aussi que l'association s'occupait parfois d'adoption. C'est toujours le cas ?
Oui. Alors l'adoption, c'était le deuxième pendant, je dirais, de l'activité de notre association. Aujourd'hui, on est un petit peu en stand-by. On a un certain nombre de dossiers qui sont toujours en cours, mais l'adoption est suspendue par les autorités françaises en Haïti depuis maintenant 2 ans et jusqu'en juin 2022 pour l'instant. Donc c'est une activité qui est en stand-by aujourd'hui.
Et qui est en stand-by, non pas forcément pour les raisons propres à l'association, mais propres au contexte que connaît le pays, contexte politique, la pandémie aussi, puisque sur place, on le sait, c'est très compliqué. Il y a eu notamment le président qui a été assassiné en début juillet, c'est ça ?
Tout à fait, le président qui a été assassiné donc début juillet, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a un président par intérim, il n'y a pas eu d'élection législative depuis 2 ou 3 ans, le Sénat ne siège plus, le Parlement ne siège plus, on a eu de la sécurité, des kidnappings, on a eu la sœur Bordeaux de Peton qui a été donc enlevée, je dirais cette année, en ce moment il y a 17 Américains qui ont été enlevés, des kidnappings ont lieu, on va dire, tous les jours, donc c'est très compliqué aujourd'hui la vie en Haïti. Nous on fait très attention en termes de protocole de sécurité vis-à-vis de nos élèves, bien évidemment, vis-à-vis de nos équipes pédagogiques aussi. Et on fait très attention parce qu'il y a eu malheureusement des kidnappings dans des écoles ces dernières semaines.
Et comment est-ce que vous restez justement en lien avec l'école sur place pour vous assurer justement que tout va bien, que les enfants peuvent continuer d'aller à l'école en cours ?
Alors, nous avons une équipe pédagogique avec un directeur, M. Wolgui Petithomme, qui travaille sur place. Ils sont... au niveau des instituteurs, ils sont une dizaine. On a 5-6 salariés qui entretiennent les bâtiments là où nous sommes. Et nous sommes en relation sur WhatsApp, sur Internet, de manière quotidienne vis-à-vis de Wolgui. Et Wolgui nous dit tout ce qui se passe et tout ce que nous devons faire. Et si nous devons, nous sommes aussi en relation avec l'ambassade de France en Haïti qui peut aussi intervenir s'il y avait nécessité.
Mais en tout cas, pour l'instant, il y a, je crois, 300 élèves, c'est ça, au
total ? 300 élèves, oui, tout à fait. 300 élèves, autant de filles que de garçons, ce qui est un petit peu notre fierté, parce que ce n'est pas toujours évident. Et on en est très, très fiers. Et tous les ans, depuis 3 ans, il y a 20 enfants qui quittent notre collège avec un diplôme de 9e année. Et tous les ans, ils sont tous reçus, 100%.
Donc, ce qui, pour vous, est aussi un gage de réussite,
c'est
j'imagine.
C'est un gage de réussite et un gage de fierté, tout à fait.
Donc cette école, effectivement, sur place, on le disait, c'est compliqué aussi donc, par le contexte politique, par aussi, malheureusement, encore un tremblement de terre qui a touché Haïti mi-août. Là aussi, ça a un impact sur vos projets, en tout cas, ou sur la continuité de la scolarité des enfants ?
Au niveau de notre école, non, parce que Port-au-Prince n'a pas été touché. C'est une autre partie de la presqu'île donc d'Haïti qui a été touchée. Mais nous avons, je dirais, des partenaires avec qui nous sommes en contact, qui malheureusement ont vu leur école à eux donc détruite, leur bâtiment détruit, et ils sont en grande difficulté aussi aujourd'hui. Et là aussi, les aides que nous amenons et qui sont amenées en Haïti, des fois n'arrivent pas jusqu'au destinataire final. Elles sont malheureusement bloquées par les gangs, les bandes armées, etc.
D'accord, donc il y a ça aussi, quand vous faites un don, vous espérez qu'il arrive au bout, mais ce n'est pas sûr à 100%.
Nous, dans notre cas, oui. Dans le cas des gens qui sont sur la partie de l'île qui a été, entre guillemets, victime du séisme.
Il y a eu plus de dégâts, oui. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a justement déjà d'autres projets aussi pour cette année, pour les prochains mois, autour de l'école ou autour d'autres projets ?
On a eu plusieurs projets. Donc, on a travaillé avec Électriciens sans frontières. On a donc totalement électrisé nos bâtiments. On a aussi travaillé avec une organisation d'association qui œuvre en Haïti, Haïti Futur, où on a mis donc ce qu'on appelle le tableau numérique au niveau de notre école, donc qui sont quand même, je dirais, dans l'ère digitale, donc ils ont de l'informatique. Nous, nos projets, aujourd'hui, les bâtiments, on les a construits, les bâtiments, il faut les entretenir, donc maintenant, c'est les entretenir et continuer donc à rénover et à être toujours au top pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et que notre équipe pédagogique puisse œuvrer aussi dans de bonnes conditions.
Donc ça aussi, vous avez forcément toujours besoin, j'imagine, de soutien, de dons. C'est aussi l'idée de pouvoir sensibiliser avec la projection prévue dimanche de ce film, Freda.
Tout à fait, tout à fait. Donc dimanche soir, nous profitons en partenariat avec Atmosphère 53 de la projection au cinéma Le Palace à 19h du film Freda. Le film Freda qui est un film qui a été réalisé par l'haïtienne Jessica Genus, et qui relate et qui parle de la vie quotidienne en Haïti aujourd'hui. Donc c'est un film qui a été reconnu quand même au niveau national, parce qu'il a été sélectionné au Festival de Cannes, et on vient d'apprendre qu'il était aussi nominé pour les Oscars dans le cadre des films des films étrangers. Donc c'est un beau film, c'est un bon film qui parle des choses de manière crue, des fois, mais je dirais qui est la totale vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de rebondir sur ce film pour pouvoir parler des actions que nous menons, et en particulier des actions d'éducation, pour pouvoir sensibiliser les participants et quelque part recruter de futurs et de nombreux donateurs.
Qui seront forcément, on l'espère, on s'en doute, ou en tout cas on l'espère, sensibilisés à cette question en venant là. Le film, justement, quand j'ai regardé un petit peu les synopsis, parle de Freda qui se pose la question, est-ce qu'elle reste en Haïti ou est-ce qu'elle doit partir ? Est-ce que ça, c'est une problématique auquel vous êtes confronté à l'école ou dans vos actions au sein de l'association ?
Tout à fait, c'est une problématique que nous vivons. Nous avons eu des enfants parrainés, un en particulier donc, qui a quitté Haïti et qui est parti en Australie pour travailler. On en a un autre qui est parti au Canada. Nous en avons un qui a quitté Haïti et qui est en ce moment en France en train d'essayer de se faire, je dirais, reconnaître comme l'asile, quoi.
Oui,
enfin,
excusez-moi,
voilà,
oui.
Une demande d'asile. Et c'est vrai que nous sommes confrontés à ça. Nous, ce qu'on essaye, c'est quand même de faire en sorte qu'ils restent au pays pour pouvoir construire leur pays. Mais on entend aussi qu'avec toutes les difficultés qu'ils connaissent et qu'ils vivent aujourd'hui, c'est tentant de pouvoir les tenter justement sa vie et de la reconstruire ailleurs. Tout en sachant que souvent, c'est quand même un miroir aux alouettes et il faut faire très attention. On a vu récemment ce qui a pu se passer aux États-Unis avec des immigrants haïtiens qui étaient fouettés à la frontière du Texas. On a vu les expulsions du Chili, les expulsions malheureusement du Brésil aussi, et voilà.
Donc en tout cas, ce sera un débat qui sera aussi directement ouvert
par
le film.
Tout à fait, ouvert, ça sera... Oui, exactement.
Ouvert, justement, puisqu'il y aura une discussion, j'imagine, à l'issue du film, c'est ça ? Il y aura vraiment la projection et ensuite un
débat ? Tout à fait. C'est un débat qui sera organisé par nous. Hein, le président et les différents membres du conseil d'administration seront présents. On exposera, on attendra peut-être les réactions du public. Et en fonction des réactions du public et en fonction des débats qui s'ouvriront et des questions qui nous seront posées, nous, on répondra comment nous, on voit les choses et comment nous, on répond aux différents problèmes et comment on espère pouvoir avancer avec les Haïtiens.
L'idée, j'imagine aussi, c'est pour le public, mais enfin, je m'inclus dedans, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas tous les jours à Haïti, à la situation sur place, donc déjà peut-être de rappeler ou même d'apprendre des choses sur la réalité vraiment sur le terrain, même si on est d'accord que ce n'est pas un documentaire, c'est un film.
C'est un film,
mais,
oui.
Mais ça relate, j'imagine, c'est assez proche de la réalité.
Qui est assez proche de la réalité. Malheureusement, on parle d'Haïti quand il y a des séismes, quand il y a des tornades, quand il y a des ouragans, quand il y a de l'insécurité, quand il y a de l'assassinat d'hommes politiques. Mais Haïti, c'est pas ça. C'est la perle des Antilles. C'est un très beau pays. C'est un charmant pays. C'est des plages magnifiques. Quand on va en République dominicaine, je peux vous dire qu'Haïti, c'est certainement mieux, beaucoup mieux. Maintenant, il faudrait de la sécurité. C'est clair.
Oui, puisque ça, c'est ça qui bloque tout, j'imagine,
qui
en tout cas
tout,
en ce moment, l'insécurité, encore c'est un mot faible, je pense, un euphémisme par rapport à la situation sur place. Vous-même, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous investir dans cette association ?
Alors, je suis arrivé à l'association car j'ai adopté deux enfants en Haïti, donc une jeune fille qui a maintenant 20 ans, Angèle, et un jeune homme qui a maintenant 17 ans, Félix. Donc naturellement, nous nous étions orientés, parce que nous habitons à Laval, vers l'association de Renazé. Et mes compétences de comptabilité ont fait qu'on m'a demandé de venir tenir la comptabilité et la trésorerie. Voilà comment je me suis. Et ensuite, c'est toutes les actions que l'on peut mener, tout ce que l'on est fier. C'est une blague entre guillemets, mais je suis très fier de faire travailler 300 enfants haïtiens dans notre école. Et quand ils sortent et quand on a 20 diplômés tous les ans, tout va bien. Et quand on a deux jeunes filles qui vont avoir un très beau travail en Haïti, un travail d'infirmière, on est aussi très fiers.
Oui, d'avoir ces parcours-là aussi qui sont permis par les actions de l'association. Puisque vous êtes combien au sein de cette association ? Ça représente combien de personnes ?
Alors aujourd'hui, on est 12 membres du conseil d'administration, plus 4 personnes qui interviennent au conseil d'administration, mais en tant qu'invité. Ensuite, au niveau de nos donateurs, on est aux alentours de 2500 donateurs tous les ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre école, grosso modo, il nous faut pour son fonctionnement 100 000 euros tous les ans.
Oui, donc il faut effectivement, c'est une somme quand même à trouver, et donc d'où l'intérêt et l'importance de ces donateurs.
D'accord.
Et comment justement on peut vous soutenir, vous aider? J'ai cru voir qu'il y avait un appel aux bougies, mais alors j'ai pas tout compris, pour
alors,
être honnête.
Donc dans notre organisation, tous les ans, nous faisons deux appels. Un appel qu'on fait au moment de la fête des mères, donc l'appel fête des mères, et un second que nous faisons aux alentours des fêtes de fin d'année, qui est en ce moment, et qu'on appelle l'appel bougie. Pourquoi l'appel bougie? C'est parce qu'à un certain moment, M. Luzu, le fondateur, avait imaginé de faire allumer les bougies pour aider les enfants en Haïti. Donc, allumez vos bougies,
très
l'appel bougie.
Très symbolique aussi,
voilà,
bien sûr.
Très symbolique, il n'y a pas... Voilà. Donc c'est comme c'est pour ça qu'on l'appelle toujours l'appel bougie, mais c'est l'appel de fin d'année. C'est ni plus ni moins que relater ce que nous faisons, et on vend aussi de l'artisanat pour justement les fêtes de Noël.
Qu'on peut retrouver peut-être si on est intéressé. Est-ce qu'il y a une page Facebook peut-être où on peut vous contacter directement? Comment ça
on
marche?
On a, si vous voulez, au niveau, on n'a pas de site marchand. Par contre, pour nous contacter, on a notre site, hein, solidarité-fraternité.fr, sur lequel on peut faire des dons en direct avec la carte bancaire normale. Autrement, bah, bien évidemment, on peut nous envoyer des chèques à notre adresse sociale, hein, 39 bis rue de Lobinière, 53 800, à Renazé. Et on peut aussi faire des virements sur notre compte bancaire. Et dans ce cadre-là, il suffit de nous contacter sur notre mail solidarité-fraternité@orange.fr. pour nous demander nos comptes bancaires pour pouvoir faire le nécessaire.
Et puis, on peut aussi venir vous rencontrer dimanche à Château-Gontier à partir de 19h pour la projection du film Freda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec nous, Patrick Pitts, on le rappelle, vous êtes donc le trésorier de l'association Solidarité et Fraternité pour les enfants en Haïti. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On va faire une petite pause en musique avec The Do Going Through the Walls et on revient juste après. In Raw Walls de The Do dans l'AJT du local sur l'autre radio. On va passer comme tous les vendredis à notre chronique sport. Chronique sport aujourd'hui qui va nous parler de badminton. Et oui, c'est une première dans cette chronique proposée par Steven.
Alors Fabien Homo, nouveau président fraîchement élu pour cette nouvelle mandature, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bonjour Steven et merci à l'autre radio de prendre contact avec notre association pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc Fabien Humeau, j'ai 45 ans, j'ai été élu au mois de juillet à la présidence du CGBC, donc Château-Gontier Badminton Club, en relais d'Emmanuel Lechat qui a fait une mandature de 12 ans, donc très longue. Mon parcours, c'est complètement différent, je viens pas du tout du milieu du badminton. Je suis à la base footballeur, donc j'ai été joueur jusqu'en 2010, jusqu'en senior. Après, j'ai laissé un peu tomber les crampons, plus pour m'occuper de l'encadrement des jeunes, donc dont une équipe de manga, par exemple, que j'ai suivi jusqu'en 2019. Je suis en parallèle, je suis passé par au badminton en tant que joueur en 2012, histoire de se relancer dans le sport, parce que quand on est compétiteur, on a toujours envie de continuer. Le bureau est venu vers moi en 2019 pour y rentrer, parce qu'ils ont besoin de 109, et on a toujours besoin de 109. Donc je suis rentré pour le prendre en charge de la commission tournoi et la commission sportive. Et suite au départ de Emmanuel Lechat cette année, en poste de président, il a souhaité prendre un petit peu de recul, rester dans le bureau pour nous encadrer aussi ce qu'on a besoin en tant que nouveau président. Donc j'ai bien accepté de prendre la présidence du CGBC cette année.
Alors l'engagement bénévole est de plus en plus difficile depuis la crise sanitaire. Pourquoi justement tu as choisi d'être le nouveau moteur du club et d'apporter justement ton énergie et ta motivation dans la structuration du club ?
J'ai surtout souhaité garder la dynamique du club mise en place par les différents bureaux qui ont vraiment bien calé les choses. Donc je voulais aussi prendre... J'ai été un peu sollicité vu que le nombre de bénévoles... est compliqué et que les personnes qui veulent s'investir pour prendre les responsabilités sont pas pléthore. Donc moi j'ai accepté de prendre la présidence cette année pour prendre plus de responsabilités et surtout pour continuer un peu la dynamique du club.
Alors aujourd'hui, quelle est ta vision, quelles sont tes ambitions pour justement apporter un rayonnement encore plus important au club ?
Les ambitions, c'est continuer la dynamique qu'on a au niveau des jeunes par le poste de Benjamin Durand-Cheval, qui est notre salarié depuis 2 ans. Donc, pour développer surtout ce créneau jeune, les adultes, continuer à les faire venir sur des créneaux différents. Donc, on a soit des compétiteurs ou des, entre guillemets, loisirs, des gens qui viennent juste pour se faire plaisir. Et développer aussi des créneaux complémentaires qui nous manquent au niveau du club et qu'on aimerait bien étoffer un petit peu, comme le créneau senior. Donc c'est des choses qui sont compatibles, le badminton est faisable et praticable à tout âge. Il y a encore les championnats de France vétérans en ce moment avec des plus de 75 ans qui jouent au badminton. Donc il ne faut surtout pas avoir peur. Benjamin justement travaille là-dessus pour le développer. Il y a le créneau handicap aussi qui est porteur et qui est adapté parce que sur Château-Gontier, la structure nous permet de recevoir des joueurs à situation de handicap. Le public féminin qui est toujours malheureusement en manque dans les clubs, tous les autres clubs de badminton nous le disent aussi, nous on a la chance d'en avoir pas mal, il faut encore qu'on essaye de développer un peu plus. Donc pour ça, il y a des choses mises en place. Et le bad tonique qui est une activité complémentaire un peu du badminton, qui allie un peu le cardio, le tonique et le badminton qui est le principal.
Alors avec toutes les contraintes sanitaires, comment le club s'est adapté pendant et après la crise sanitaire pour permettre justement la continuité de ta pratique ?
Alors pendant la crise sanitaire, on s'est vraiment adapté à tous les protocoles qui étaient mis en place. Donc d'abord par la Fédération de badminton qui nous mettait des choses à respecter, on va dire, et les exigences de la ville de Château-Gontier qui avait des fois d'autres idées. Mais on l'a suivi strict, donc on a fermé quand il fallait fermer. Pendant la crise, Benjamin, donc, qui est le salarié du club, a mis en place des challenges sur les réseaux sociaux et sur les entraînements extérieurs. On a réussi à reprendre les créneaux jeunes dès qu'on a eu le feu vert, toujours en gardant un protocole strict. Là-dessus, on n'est pas dérogé. Donc le pass maintenant, la désinfection, les masques au moment où c'était en vigueur, le nombre de joueurs limités sur le terrain et les mesures barrières, quoi.
Alors aujourd'hui, on sent un énorme dynamisme au club. Quels sont un petit peu tes projets pour le futur ? As-tu des ambitions ou des envies d'accueillir des événements très importants au sein de ton club ?
Oui, on a toujours des envies. Le principal, à court terme, c'est surtout de développer le nombre de licenciés. Pour pérenniser un emploi comme celui de Benjamin, on l'emploie à temps plein. Donc il faudrait qu'on retrouve un nombre de licenciés supérieur à 200. Pour l'instant, cette année, on va atteindre certainement les 170, ce qui est déjà beaucoup pour nous. Mais potentiellement, on a aussi des objectifs de grosses compétitions qui sont mises en place. Donc on a des tournois jeunes, on a des tournois seniors nocturnes, un tournoi national, on a un Kids Bad pour les jeunes. On a aussi, là c'est plus un appel vis-à-vis des instances de la ville, il y a une nouvelle salle qui est prévue autour de la lavanderie, qui potentiellement pourrait accueillir beaucoup de terrain de badminton. Conjugué à la salle de la lavanderie, ça pourrait nous permettre d'espérer, pourquoi pas, des beaucoup plus grosses compétitions à une échelle nationale, donc des championnats de France, de jeunes, de vétérans, de seniors, des choses qui sont pour l'instant irréalisables parce qu'il nous faut une structure beaucoup plus conséquente, mais avec ce projet-là, on peut espérer penser à des projets comme ça, qui pourront mettre en valeur notre sport.
Alors, merci beaucoup Fabien. En tout cas, on te remercie sincèrement. Bravo pour ton engagement et ton énergie à développer ta structure. Et on espère justement que tous tes projets pourront se réaliser et qu'on espère que la communauté de communes pourra entendre un petit peu le projet de la future salle qui pourrait justement permettre à ta structure de se développer encore plus. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on manque cruellement de bénévoles comme toi, donc on peut dire que tu peux être un exemple.
Merci à toi, Steven.
Eh oui, merci Steven pour cette nouvelle chronique sport à retrouver tous les vendredis dans la JT du local. Vendredi, quatrième et dernier jour de notre dernier épisode, et dernier jour ça marche aussi, de notre feuilleton autour du Lab Lab, le premier Fab Lab dédié aux personnes en situation de handicap. Donc les bénévoles fabriquent pas des prothèses justement, mais en tout cas des aides pour les personnes en situation de handicap, pour les aider dans leur quotidien. Et c'est le cas notamment pour, on va entendre le témoignage d'un monsieur en situation de handicap justement, qui a été accompagné par le Lab Lab, et qui l'est toujours d'ailleurs, pour faciliter entre autres sa pratique de la plongée.
Didier Barbet, je suis un accidenté de la route et je suis là pour adapter du matériel pour la plongée. J'avais vu en premier lieu le Lab Lab de Rennes, mais bon, il y avait une distance entre là, donc j'ai laissé tomber. Et j'étais content qu'il y en ait un sur Laval. Voilà, maintenant c'est auprès de chez moi, donc c'est bon. Pour le parachute, voilà, je ne pouvais pas tenir le parachute et pouvoir le gonfler, c'était compliqué avec une seule main. Donc là, j'ai trouvé la parade. Grâce à eux, ils m'ont trouvé la technique qui me permettait de parer à ma difficulté. C'est une bouée qu'il faut gonfler, envoyer de l'air dedans pour qu'elle monte à la surface, pour signaler votre présence, que vous êtes en dessous ou sous l'eau. Déjà la tenue, ça y est, je pense que c'est réglé. Il va falloir faire des tests maintenant, pour le laisser en piscine, pour voir comment ça donne, et puis après on ira plus loin. Mais chaque chose en son temps. Après je vais l'essayer dans l'eau, voir ce que ça donne, l'essayer dans deux en piscine et puis en carrière déjà, pour voir un peu ce que ça donne. Et puis après on validera le projet si je vois que c'est fiable. S'il n'y a pas de barrière ou de choses qui me dérangent. Il n'y a que moi qui peux le dire, c'est pas la personne qui va le fabriquer ni quelqu'un d'autre, c'est moi qui va le ressentir les choses. J'ai su lui présenter le projet, le souhait d'où je voulais aller, ce que je voulais obtenir. Et lui, d'un regard extérieur, a trouvé ce que moi je ne trouvais pas dans ma bulle. On est enfermé, on n'ouvre pas assez, on est omnibulé par d'autres problèmes et on n'arrive plus. Et d'avoir une personne extérieure qui amène son regard extérieur, qui permet de, hop là. Je l'ai fait par moi-même, j'ai cousu, j'ai fait des choses, mais ça marchait pas, donc ça n'allait pas. Le mettre dans la poche, une sortie de la poche, c'était pas possible, là, une seule main, non, c'était trop compliqué. Que là, non, là je pense que d'utiliser la stable, de l'avoir fixée par rapport à la stable, sans modifier rien d'autre, c'est nickel. Je pense que ça va fonctionner. Ça remplace pas. On ne passe rien du tout. Ça amène une difficulté. On peut trouver par ces gens-là, trouver des petites solutions qui ne coûtent pas très cher et de pouvoir faire les choses aussi. Parce que le handicap coûte très cher. Voilà, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir vivre aussi à côté. suite à l'accident. Après, voilà, enfin, j'ai trouvé cet côté-là. Et que dans l'eau, je me déplace comme invalide. J'ai pas de... En soi, je suis stable. Voilà, j'arrive à me déplacer dans l'eau sans aucun problème. De passer dans des... Je suis heureux dans l'eau. J'adore tout ce qui est le fond marin maintenant. J'ai découvert ça. Donc, c'est mon but, c'est de prendre du plaisir aussi dans le loisir et pas de contraintes. Moins possible. Là, je me vide la tête. Voilà. Pouvoir obtenir le niveau supérieur pour pouvoir plonger avec mes enfants. L'objectif, il est là. Au final, il est surtout là. Physiquement, il n'y a rien qui me l'interdit. Maintenant, c'est techniquement. Voilà, il faut que je trouve, moi, ce qu'il faut que je mette en place pour contrecarrer mon manque de mon bras gauche.
Et merci pour ce précieux témoignage. C'est la fin de ce feuilleton que vous pouvez réécouter. Tous les épisodes sont à retrouver sur notre site l'autreradio.fr. On fait un petit point sur les bons plans et en tout cas les quelques dates à l'agenda prévues ces prochains jours en Mayenne. Évidemment, c'est non exhaustif. On commence avec le marathon organisé ce soir par l'association Au Foin de la Rue. Organisé à Mayenne, le principe, le marathon, donc comme un marathon dans les bars, un marathon aussi de musique avec un groupe dans un bar, dans chaque bar, donc tout au long de la soirée. Ça commence à 18h30 au VNB à Mayenne avec le reggae du groupe Team Peace et ça se terminera à 23h45 avec Darker, un artiste d'Electro House à La Carotte. Donc le but c'est que bien sûr vous puissiez suivre évidemment tous les concerts si vous le souhaitez ou seulement quelques-uns dans la soirée et vous pouvez aussi apporter votre propre gobelet pour éviter bien sûr de faire trop de déchets au niveau de l'écologie. Il y a aussi demain une nouvelle action de sensibilisation contre les violences sexuelles sur les enfants. C'est proposé par le Théâtre du Tiroir, le Théâtre Jean Massé avec Jean-Luc Bansard. Une grande table ronde demain à 14h30. Comment prévenir et agir contre ces violences sexuelles sur les enfants avec beaucoup de monde autour de la table et notamment l'association Colosse au pied d'argile et le collectif Aide Inceste et Pédocriminalité. Et puis cette table ronde sera suivi à 18h de La République des Enfants du docteur Korchak, je crois qu'on prononce comme ça, ce sera du théâtre musical. À retrouver aussi un petit peu plus tard la semaine prochaine, le festival alimentaire qui se poursuit dans différents cinémas du département et notamment au cinéma Le Palace à Château-Gontier avec jeudi prochain, le 25 novembre à 20h30, un film Nourrir le changement de Camille Montoccio. Ce sera animé par Vincent Guillet qui est paysan à Cran, paysan de l'association aussi ADARM et seront aussi présents des élus référents du projet alimentaire territorial du GAL Sud Mayenne pour débattre à l'issue de la projection, tarif unique 5€. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce vendredi. À suivre à l'antenne à 20h, il y aura Passe-moi le thème sur le thème de la solitude. Et oui, présenté bizarrement par 3 animateurs pourtant ce soir. Et puis ce week-end, vous pourrez retrouver l'enfant à ses droits à partir de 11h demain. Et à 11h, même heure dimanche, là ce sera Sport Épique. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à lundi.